Laudetur Jesus Christus.
Léon XIV appelle le cardinal Pizzaballa. Le pape a exprimé sa sollicitude avec le patriarche latin de Jérusalem pour les chrétiens de Terre Sainte et toutes les victimes de la bande de Gaza. La paroisse catholique du territoire palestinien a reçu ce matin la visite des patriarches latins et orthodoxes de Jérusalem. Le Saint-Père a appelé il y a une semaine à une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, mais les tentatives de réglementation dans le secteur sont perçues comme des freins, ce qui n'est pas vrai, nous verrons pourquoi. Les députés brésiliens adoptent une loi facilitant notamment l'exploitation forestière, une défaite pour l'environnement et pour les ambitions du Brésil en la matière qui tombe à quelques mois de la COP30. Et puis lueur d'espoir en Colombie pour les agriculteurs contraints de cultiver la coca, une baie amazonienne pourrait les libérer des trafiquants.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La sollicitude du pape pour Gaza et tout spécialement pour les catholiques de la paroisse de la Sainte Famille attaquée hier par l'armée israélienne. Léon XIV a appelé ce matin le patriarche latin de Jérusalem pour prendre des nouvelles des blessés de l'attaque et notamment du curé, le père Romanelli. Le Saint-Père a appelé le cardinal Pizzaballa alors que celui-ci se rendait en compagnie du patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, à Gaza auprès des chrétiens.
Nous étions en route pour Gaza vers la frontière. Le patriarche grec orthodoxe et moi-même accompagnés de notre délégation pour une visite à la paroisse de la Sainte Famille et apporter notre solidarité aux familles des victimes et à toute la communauté. Sa Sainteté, le pape Léon XIV, nous a appelés pour exprimer sa proximité, son affection, ses prières, son soutien et son intention de tout mettre en œuvre pour parvenir non seulement à un cessez-le-feu, mais aussi pour mettre un terme à cette tragédie. Le pape Léon a répété à plusieurs reprises qu'il était temps de mettre fin à ce massacre, que ce qui s'était passé était injustifiable et que nous devions veiller à ce qu'il n'y ait plus de victimes. Au nom du patriarcat latin et de toutes les églises de Terre Sainte, nous tenons à remercier sa sainteté pour sa proximité et pour ses prières dont nous avons déjà été assurés. Nous l'assurons également au nom de toute la communauté de Gaza, frères et sœurs, prêtres, religieux et religieuses, de nos prières et nous remercions le Saint-Père.
La preghiera e un ringraziamento al Santo Padre.
Le cardinal Pizzaballa, qui avec tous les autres chefs chrétiens de Terre Sainte a dénoncé dans un communiqué fermement ce qu'ils appellent un crime, rappelant que bombarder une église abritant 600 réfugiés, y compris des enfants handicapés, était une violation du droit international. Les chefs spirituels appellent les dirigeants du monde et les agences des Nations Unies à travailler en faveur d'un cessez-le-feu. Mise en cause, Israël a réagi, son premier ministre disant regretter profondément ce tir contre la paroisse de la Sainte Famille. Chaque vie innocente perdue est une tragédie, a ajouté Benjamin Netanyahou, disant partager la douleur des familles et des fidèles. Une enquête a été ouverte sur ce qu'il a qualifié d'incident. Aucun mot de sa part. En revanche, pour les Palestiniens tués chaque jour alors qu'ils tentent d'obtenir un peu de nourriture pour échapper à la faim. Ce matin encore, des frappes israéliennes ont tué 14 personnes, notamment dans la région de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. La bande de Gaza qui, jour après jour, subit les assauts des pelleteuses israéliennes. Selon une enquête menée par la BBC qui a utilisé notamment des images satellites, Israël a démoli des milliers de bâtiments à travers tout le territoire palestinien depuis la rupture du cessez-le-feu en mai dernier. Des villes et des banlieues entières qui abritaient des dizaines de milliers de personnes ont été rasées complètement au cours donc des dernières semaines. En Syrie, le calme aura peu duré dans la province de Souéda. Des affrontements entre des milices druzes d'un côté et des bédouins accompagnés de combattants tribaux proches du pouvoir syrien ont lieu. La semaine dernière, Léon XIV appelait à une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Les initiatives en la matière existent. C'est le cas en Europe où les 27 se sont dotés en 2024 d'un IA Act, une législation souvent critiquée par les acteurs du secteur, notamment aux États-Unis, qui estiment que la réglementation européenne les empêche de se développer et d'innover. Pourtant, selon Céline Castéronard, professeure à Ottawa et spécialiste de l'IA, réglementer ne signifie absolument pas freiner l'innovation.
Pour moi, c'est pas un frein pour deux raisons. La première raison, c'est que la réglementation donne quand même un cadre, en fait, et une sécurité juridique. Les entreprises en ont besoin pour pouvoir investir. et être sûr que leurs produits puissent être mis sur le marché et soient pas retirés 6 mois plus tard parce que ça remplirait pas des normes qui seraient posées a posteriori ou ça créerait des dommages qui n'auraient pas été anticipés parce qu'on n'aurait rien demandé en amont. D'ailleurs, le premier objectif du règlement européen, c'est de créer le marché de l'IA, de le consolider. La sécurité juridique, c'est quand même ce que demandent toutes les entreprises, où qu'elles soient dans le monde. Le deuxième point, ça c'est un peu plus critique, ce serait de dire que c'est pas parce que on peut faire tel ou tel système ou produit d'IA que c'est souhaitable socialement. C'est important aussi que l'ensemble de la société décide d'avoir tel ou tel produit sur le marché parce que ce sont des produits qui peuvent avoir un certain nombre de risques. C'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est socialement souhaitable. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que les entreprises américaines de la Silicon Valley sont toujours en train de dire qu'on les empêche d'innover, qu'on les empêche de faire, etc. Mais sans jamais se poser la question de savoir si c'est socialement utile et désiré, souhaitable.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Une défaite pour l'environnement au Brésil. Le Congrès a adopté hier une proposition de loi visant à assouplir les autorisations environnementales. Alors que le pays s'apprête à accueillir la COP30 dans quelques mois, les écologistes dénonce une initiative dévastatrice pour l'environnement. Les précisions à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino.
Il s'agit du plus grand recul environnemental de ces 40 dernières années, selon les ONG écologistes. Elles pointent du doigt un nouveau mécanisme subjectif d'auto-autorisation pour certains projets. Mariana Lirio de l'Observatoire du Climat.
C'est une loi qui va faciliter la déforestation, affaiblir les outils de prévention d'impact, compromettre la protection de la biodiversité et augmenter la production de gaz à effet de serre.
Le projet a récolté une majorité de votes à la Chambre basse, dominée par le lobby de l'agronégoce. Une décision aux antipodes de la position du gouvernement, selon Alice Correia de l'Institut socio-environnemental.
Il y a une tentative de délégitimation de l'autorité environnementale du pays sur la scène internationale, ce qui est très dangereux.
Les ONG environnementales appellent à un veto intégral du projet. Gabriela Nepomuceno de Greenpeace Brésil.
Cette loi ne doit pas passer, c'est la loi de la destruction, la loi de la fin du monde, étant donné l'immensité des dégâts environnementaux qu'il pourra engendrer.
Le président brésilien Lula aura 2 semaines pour se prononcer sur le projet de loi. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
Toujours en Amérique du Sud, la production de cocaïne continue de battre des records en Colombie, portée par l'extension rapide des cultures illicites de coca. En un an, elle a bondi de près de 34%. Dans le Putumayo, les plantations de coca sont omniprésentes, 50 000 hectares contrôlés par les groupes armés. Mais une petite baie amazonienne, l'Açaï, suscite ici de nouveaux espoirs économiques et écologiques. Camille Bouju est allée rencontrer les habitants de cette région où l'avenir reste fragile. Reportage.
Buenos días.
Buen día.
Vengo a pedir un favor que me haga el favor de hacerme la cuenta de cobro.
Dario est venu chercher son dû auprès d'Amapuri Corpo Campo qui achète ses fruits. À plus de 70 ans, ce paysan a été l'un des premiers à croire en l'açaï comme alternative à la coca.
Avant, je gagnais ma vie avec la coca. Puis j'ai réalisé que la coca était de toute façon un gros problème. Alors on a commencé à planter de l'açaï et ça a bien marché pour nous. On n'a plus de problème avec personne. L'açaï rapporte de l'argent et apporte du bien-être. Avec ça, j'ai complètement arrêté la coca.
Alors que depuis le début des années 2000, les programmes de substitution se succèdent sans grand succès, l'açaï pourrait offrir ici une issue plus stable, comme l'explique Yimi, l'un des fondateurs de Corpo Campo.
Malheureusement, depuis plus de 40 ans dans le Putumayo, toute une génération a été élevée avec la coca. Il y a des jeunes qui ne savent rien faire d'autre que de vivre de la coca. Avec l'açaï, nous cherchons à changer cet esprit.
Mais cette aubaine n'est pas sans risque. Comme au Brésil, le boom de l'açaï pourrait favoriser la monoculture et menacer la forêt. Ici, le pari repose donc sur l'agroforesterie, comme l'explique Mauricio, un technicien agronome.
L'idée est de rétablir la biodiversité perdue en Amazonie. Dans le Putumayo, le palmier d'açaï est associé à d'autres espèces, y compris des cultures natives de la région.
Un enjeu de taille donc pour que demain, les enfants du Putumayo puissent grandir loin de la coca et préserver un bout d'Amazonie. Puerto Assis, Camille Bouju, pour Radio Vatican.
En Ukraine, 6 personnes ont perdu la vie la nuit dernière dans des bombardements russes dans plusieurs villes de l'est du pays. La Russie, ciblée par l'Union européenne par un 18e paquet de sanctions, va faire en sorte tentent de minimiser leurs effets. Le Kremlin estime cependant que ces mesures de rétorsion auront un effet négatif pour les pays qui s'y joignent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera lundi matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bon week-end à toutes et à tous.